Bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu la chance de saluer ce matin. Ce matin, je voudrais aborder un sujet avec vous, le sujet de la grâce. Alors, il y a de ça quelques années, j'avais lu un bouquin qui s'appelle « Le règne de la grâce » de Steve McVeigh. Et c'est vraiment un livre que je trouve super et qui m'a énormément apporté et qui m'a aidé à comprendre certains aspects de la grâce que je n'avais pas vraiment bien compris. Je voudrais prier. Seigneur, merci pour ce privilège que tu me donnes de pouvoir te servir, de pouvoir parler en ton nom. Et Seigneur, je te demande que tu puisses vraiment mettre tes mots dans ma bouche et que je ne dise pas une chose de plus que ce que tu ne veux pas que je dise. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, qu'on puisse t'entendre, Seigneur. Amen. En 2007, il y a un Iranien du nom de Bilal Abdullah qui était condamné à une pendaison pour meurtre. Il avait poignardé un jeune de 18 ans dans une bagarre, et la coutume veut que ce soit une pendaison publique. Et la loi du talion, dans la charia, dit que la mère de la victime peut s'approcher et pousser la chaise du condamné. Et là, la mère de la victime s'approche du condamné en pleurant, et elle le gifle. Et puis ensuite, elle va le pardonner. Elle va ensuite l'aider à enlever la corde autour de son cou et finalement il ne sera pas pendu. On pourrait parler de grâce dans cette histoire de pardon, mais en fait, c'est de la miséricorde. Quand on fait preuve de miséricorde envers quelqu'un, on lui épargne ce qu'il mérite. Mais quand on fait preuve de grâce envers quelqu'un, on lui offre ce qu'il ne mérite pas. La semaine dernière, Jean-Paul, je ne sais pas où il est, nous avait parlé donc de la parabole du fils prodigue. Et si le père avait fait preuve de miséricorde envers son fils, il aurait dit quelque chose du genre « Bon, ok, allez, on passe l'éponge, je te remets ta dette, prends ton tablier et va te remettre au travail. » Mais l'histoire nous dit qu'il lui fait la fête et lui donne un anneau, il lui donne des vêtements et tulle vos gras pour lui. Et c'était quelque chose d'assez exceptionnel à l'époque, c'était pour les grandes occasions. Jésus fait un pas de plus avec nous. Dieu franchit une étape supplémentaire. Le mot « grâce » qu'on retrouve plus de 170 fois dans le Nouveau Testament est l'un des mots les plus riches de la foi chrétienne, mais aussi un des plus méconnus. Il est la traduction du mot grec « charis ». Un charisme est un don gratuit par grâce. Éphésiens 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Mais cette grâce que Dieu nous propose, elle ne va pas non plus à l'encontre de la justice. On ne peut pas dire à un tueur en série, « Bon allez, ok, c'est pas grave, suivant !» Non, il y a un prix qui doit être payé. Dans le film « Le dernier empereur », on voit un petit garçon qui reçoit l'onction de dernier empereur de Chine. Et il vit une vie de magie, de luxe, avec des milliers de serviteurs sous ses ordres. Et quand son frère lui pose la question « Oui, mais qu'est-ce qui se passe si tu fais quelque chose de mal ?» Et là, il lui répond « Quand je fais quelque chose de mal, un autre est battu à ma place. » Et là, pour illustrer son exemple, il prend un vase, il le casse par terre et un esclave est battu. Et Jésus a renversé ce modèle. Quand les serviteurs pêchent, c'est le roi qui est puni. Philippe Yancey, dans son livre touchés par la grâce, nous parle des mathématiques atroces de la grâce. Alors, je vais appeler cette partie les mathématiques nouvelles ou mathématiques mystérieuses de la grâce. Luc nous parle d'un berger qui abandonne 99 brebis dans le désert pour en trouver une qui est perdue. Ça veut dire que les 99 brebis restantes étaient vulnérables aux voleurs, aux loups ou à l'envie de prendre la fuite. Et qu'est-ce qui se passerait si le berger rentrait avec sa brebis sur son dos, il allait retrouver son troupeau, et d'un coup il en manquait 23. Dans une autre scène racontée par Jean, il y a une femme du nom de Marie qui verse un demi-litre d'un parfum exotique sur les pieds de Jésus. Probablement l'équivalent d'un an de salaire. Même Judas réalisait l'absurdité de la chose. On aurait pu utiliser cet argent pour aider les pauvres. Et puis il y a Marc, qui nous rapporte cette scène de la veuve qui glisse une petite piécette, et Jésus qui déprécie tous les autres dons bien plus gros. En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. J'espère que Jésus avait parlé doucement. Peut-être que les personnes qui avaient fait des dons plus importants n'auraient pas apprécié la comparaison. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous parle d'un paysan qui embauche dans son vignoble des ouvriers. Alors certains commencent à l'aube, d'autres commencent pendant la pause café du matin, d'autres commencent à midi, il y en a d'autres qui commencent à l'heure du goûter, et puis il y en a qui commencent une heure avant la fin. Et tout se passe bien, jusqu'au moment de la paye. Ceux qui venaient de se coltiner 12 heures toucheraient la même chose que ceux qui venaient de travailler qu'une heure. D'un point de vue motivationnel, économique, mais c'est du grand n'importe quoi, j'aurais clairement fait partie des râleurs dans une situation comme celle-là. Pourquoi les centimes d'une veuve compteraient plus que les millions d'un riche? Pourquoi les nouveaux venus seraient payés autant que les fidèles ouvriers habituels? Certains d'entre vous connaissent un petit peu la rivalité qu'il y avait entre Mozart et Salieri. Salieri, c'était un grand musicien qui rêvait de créer une musique de louange éternelle, mais il n'en avait pas la capacité. Et il l'enrage de voir que Dieu a choisi de donner à Mozart, un ado turbulent, le plus grand don de génie musical que la Terre ait jamais connu. Si on regarde sur Wikipédia ce qu'il a fait, ce qu'il sait faire, c'est juste hallucinant. Et en fait, on regarde le problème à l'envers. Pourquoi Dieu choisirait Jacob le roublard plutôt que Ésaü le respectueux? Pourquoi donner une force surnaturelle à un délinquant comme Samson? Pourquoi former un petit berger comme David pour diriger le peuple d'Israël? Pourquoi donner un don de sagesse à Salomon, fruit d'une femme qui a une liaison adultère avec son père? Pourquoi donner aux ouvriers qui travaillent 12 heures autant que ceux qui travaillent qu'une heure? Il n'est pas dit dans la parabole que ceux qui travaillent qu'une heure travaillent avec tant d'acharnement que finalement ils compensent le travail que ceux qui en ont fait toute la journée. Non, non, il nous est dit dans la parabole de Jésus qu'ils attendaient oisivement sur la place, comme le feraient des ouvriers paresseux qui attendaient pendant la période des moissons. Quel chef d'entreprise saint d'esprit donnerait le même salaire au premier qu'au dernier? Mais c'est justement parce que ces histoires qu'on rencontre dans la Bible, c'est parce qu'elles n'ont aucun sens d'un point de vue logique, économique, que Jésus veut nous faire comprendre que la grâce ne peut être calculée comme la rémunération d'une journée. La grâce ne parle pas de finir le premier ou le dernier, elle parle de ne pas compter. Nous recevons la grâce comme un don de Dieu, pas comme quelque chose qu'il faut trimer pour obtenir. On lit dans Matthieu, chapitre 20, versets 13 à 15, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est arrivé le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Et toi, Salieri, es-tu jaloux que je sois généreux envers Mozart? Et toi, Saül, es-tu jaloux que je sois généreux envers David? Et vous, pharisiens, êtes-vous jaloux que j'ouvre la porte aux païens à un stade si avancé? Que j'honore la prière d'un péager plus que celle d'un pharisien? Que j'accepte la confession de dernière minute d'un voleur sur la croix et que je l'accueille au paradis? Est-ce que ça excite votre jalousie? Me reprochez-vous d'avoir quitté le troupeau docile pour aller chercher celle qui était égarée? Ou de tuer le veau gras pour le fils prodigue bon à rien? l'employeur de la parabole de Jésus n'a pas lésé les ouvriers. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Ceux qui ont travaillé 12 heures ont eu ce qu'ils méritaient. Mais leur mécontentement est provoqué par les mathématiques scandaleuses de la grâce. Nous, chrétiens, quand on lit cette histoire, on s'identifie bien plus volontiers à ceux qui ont travaillé toute la journée qu'aux fainéants de la dernière heure. Et on est dérangé par le comportement de cet employeur. Mais on passe à côté du fait que Dieu nous a donné tout ce que nous avons. Tout est grâce, on ne mérite rien, à part peut-être d'aller en enfer si on est mesuré par ce qui est équitable. La grâce ne peut être réduite à des principes comptables. Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Mais ce n'est pas étonnant de raisonner sans cesse au mérite. Depuis la maternelle, on nous enseigne comment réussir dans un monde sans grâce. No pain, no gain. Un petit déjeuner gratuit, ça n'existe pas. Faites valoir vos droits, chacun son tour dans la file d'attente. Vous obtenez ce que vous payez. Et pourtant, quand on lit les évangiles, on se rend compte qu'on n'obtient pas ce qu'on mérite. On mérite d'être puni, on obtient le pardon. On mérite la colère, on reçoit l'amour. Quand nos aptitudes deviennent un handicap. Jésus, en tant qu'homme, ne pouvait rien faire de lui-même. Il n'aurait pas pu faire le moindre miracle de lui-même. Jésus était seulement capable de faire ce que Dieu, le Père, faisait à travers lui. Jean 5, 19, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. » Jean 5, 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Alors comment est-ce que nous pensons être capables de gérer notre propre vie? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à avancer dans la vie chrétienne? Mais c'est parce qu'on a mal compris la méthode que Dieu a choisie pour nous permettre d'être victorieux en permanence. Ça vous est jamais arrivé de dire à un nouveau converti, « Bon, alors maintenant que tu as mis ta foi en Dieu, c'est très bien, il faudrait bien démarrer. Alors, il faudrait que tu ailles à l'église tous les dimanches matins, il faudrait que tu ailles voir les anciens et que tu leur demandes d'être membre, que tu te fasses baptiser. Et puis aussi, il faudrait que tu assistes à toutes les réunions de la semaine. Tu chantes ? Écoute, on a une chorale super, en plus c'est Marie-Lou la chef de chorale, c'est vraiment génial. Tu aimes le sport ? On a organisé un groupe sport et foi, en plus c'est Pierre le coach, il est fantastique. Le mieux serait que tu puisses aussi lire 3 chapitres de l'Ancien Testament et 2 du Nouveau, chaque jour. Comme ça, à la fin de l'année, tu auras lu la Bible en entier. Ah, la prière, j'allais oublier la prière. Il faudrait que tu pries chaque matin. La dîme. J'arrête là. Je ne suis pas en train de dire que ces choses sont mauvaises. Au contraire, je pense qu'elles font partie de la croissance normale d'un chrétien. Mais c'est l'attitude qui n'est pas bonne. Croire que pour avancer dans sa marche chrétienne, il faut faire quelque chose pour être victorieux. Quand on se convertit, on ne fait rien d'autre que placer notre confiance en Jésus-Christ. La foi, voilà ce qui compte. Et puis ensuite, on nous rabâche. Les œuvres, voilà ce qui compte. Et on commence petit à petit à placer notre confiance dans nos efforts. Et en fait, on expérimente la miséricorde quand on choisit de croire au sacrifice de Jésus sur la croix. Mais on passe ensuite à côté de la grâce. Non, toutes ces choses doivent découler d'une envie de connaître ce Dieu de grâce. Voici l'histoire d'un homme qui un jour se balade dans une ruelle et il voit un membre de sa bande se faire matraquer. Il se fait matraquer par une brute et il regarde autour de lui dans la ruelle, il n'y a personne, personne d'autre pour le défendre. Et la brute, elle frappe tellement la victime là qu'elle est recroquevillée par terre. Et elle pisse le sang. Alors la personne qui observe ça, elle n'en peut plus, elle saisit un pavé, elle fracasse le crâne de la brute qui s'écroule par terre. La victime lève les yeux, voit son agresseur mort et s'enfuit. Pris de panique, la personne qui venait de fracasser le crâne cache le corps. Et puis ensuite, il vit dans la clandestinité. Cet homme qui vit dans la clandestinité, c'est notre Moïse, qui frappe l'Égyptien dans Exode 2. Moïse qui a fait Moïse, qui à ce moment-là était un homme en pleine forme. C'était un noble de la ville, il avait la pêche, on suppose qu'il avait une carrure assez correcte, si on peut dire. Mais il était plein de compassion pour son frère et ébranlé de voir cette injustice. Et au lieu de compter sur Dieu, il s'appuya sur ses aptitudes personnelles et il tua l'Égyptien. Les motivations sont bonnes, mais c'est la méthode qui est mauvaise. Dieu nous aime tellement que si besoin, il se servira de la souffrance pour nous amener à une relation de dépendance totale avec lui. Et c'est là que notre Moïse, qui était la veille dans la cour du Pharaon, se trouve aujourd'hui en fuite dans le désert. Il va devenir berger. Et ça me fait penser à une petite anecdote d'un gamin de 3 ans qui a une douleur au ventre et son père l'amène d'urgence à l'hôpital et les médecins lui diagnostiquent une occlusion intestinale. Et on lui dit qu'il va falloir le sonder et faire un lavement. Et on demande au père de maintenir ce petit garçon sur la table d'opération pendant que le médecin procède à toutes ses opérations. Et puis le gamin se débat et puis crie à son père « Papa, papa, arrête-le, s'il te plaît !» Et là, son père regarde avec les larmes aux yeux son fils qui ne comprend pas pourquoi son père ne l'arrête pas. Comment est-ce qu'un gamin de 3 ans peut comprendre la raison qui justifie autant de douleur? Et pourtant, son père, il est là, il essaie de le réconforter. Et combien de nous, à un moment dans notre vie, est-ce qu'on n'a pas crié à Dieu « Stop, arrête! Fais en sorte que ça s'arrête, interviens !» Rappelons-nous que Dieu ne prend pas plaisir à notre souffrance, mais qu'elle est parfois nécessaire. Mais soyons sûrs qu'il ne nous maintiendra pas sur la table d'opération une seconde de plus que nécessaire. Pour en revenir à notre Moïse, qui se retrouve un petit peu sur cette table d'opération, dans le désert, berger, Dieu va le pousser jusqu'au bout de lui-même et de sa confiance en ses propres forces de façon à ce qu'il s'en remette totalement à Dieu. Et dans les chapitres 3 et 4, il y a le récit entre la rencontre entre Dieu et Moïse, où Dieu lui révèle son plan et lui dit qu'il a prévu de l'utiliser pour délivrer le peuple hébreu de l'esclavage. Et là, peut-être que Moïse se disait que depuis le temps qu'il s'occupe de ses moutons, j'ai complètement perdu mes compétences dans mes relations avec les hommes. Et puis finalement, gérer mes moutons, c'est la seule chose que je sais faire. Mais au chapitre 4, versets 2 et 3, l'Éternel lui dit « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Un bâton. L'Éternel lui dit « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et il devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. Est-ce qu'il ne nous est pas déjà arrivé là où on croyait que Dieu nous avait déjà tout retiré, qu'il trouve encore le moyen de nous retirer quelque chose? Ça devait être un petit peu ce que Moïse ressentait. Son bâton qui symbolisait sa fonction de berger, c'était modeste, mais il parvenait à survivre, au moins grâce à ça. À cette compétence, Jésus lui dit « Jette-la par terre ». En fait, Moïse avait troqué ses fonctions de prince contre des fonctions de berger. Ces deux types d'aptitudes étaient en quelque sorte une façon de gérer sa vie, quelque chose sur lesquels il comptait. Et Moïse a ensuite réalisé que c'était dans ses aptitudes qu'il avait placé sa confiance pendant tout ce temps, sans même s'en rendre compte. Il les a jetées par terre. On lit par la suite que le bâton devient le bâton de Dieu, dans tous les versets suivants. Matthieu 16, 25 nous dit que « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi » la trouvera. Nos aptitudes deviennent un handicap quand nous plaçons notre confiance en elles au lieu de la placer en Dieu. Steve McVeigh, le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, raconte dans son livre une histoire d'un homme qui un jour alla voir son pasteur et lui dit « Je comprends pas. Avant ma conversion, je buvais trop, je faisais n'importe quoi, j'avais même touché à la drogue. Et quand je me suis converti, j'ai dit non à tout ça. Maintenant, je suis engagé dans l'église, moniteur de l'école du dimanche, je chante dans la chorale, mais je ne me sens pas satisfait. » Alors le pasteur l'écoute et puis lui dit « Tout semble indiquer qu'avant tu cherchais à t'épanouir par des moyens qui n'étaient pas les bons. » Alors il lui répond « Oui, c'est vrai. » N'as-tu jamais imaginé qu'aujourd'hui encore, il se pourrait que tu t'efforces à t'épanouir par un moyen qui n'est pas le bon ? J'ai comme l'impression que tu as finalement simplement abandonné une mauvaise identité pour en endosser une meilleure. Tu ne te considères plus comme un fêtard, maintenant tu te considères comme étant au service de l'Église. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal d'être au service de l'Église ? Il n'y a rien de mal, c'est même une bonne chose, lui répond le pasteur. Le problème, c'est que Dieu n'a jamais prévu que nous nous épanouissions en faisant de bonnes choses. C'est en lui qu'il souhaite qu'on s'épanouisse. Ce même pasteur reçoit un autre homme qui lui dit ceci. je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai réussi dans mes affaires, mon couple marche bien, nos enfants sont bien élevés, notre situation financière est sûre. Mais pourtant, je n'arrive pas à voir la victoire dans ma vie chrétienne. Comment se fait-il que je réussisse dans autant de domaines pour que je me plante lamentablement dans ma croissance spirituelle ? Si tu veux vraiment que je sois franc avec toi, lui dit le pasteur, je pense que tu es tellement bon que ça te fait du tort. Tu es parvenu à la victoire dans des domaines importants de la vie, les gens t'admirent pour ça, tu es un gagnant. Mais le problème, c'est que dans la vie chrétienne, on ne parvient pas à la victoire. On ne peut que la recevoir. La victoire ne s'obtient pas par des efforts, mais seulement en s'en remettant totalement à Jésus-Christ. On doit renoncer à compter sur nos aptitudes humaines et reconnaître, comme Jésus l'a dit, que c'est uniquement grâce à sa vie en nous que nous pouvons accomplir quoi que ce soit de bon. À l'Académie des Beaux-Arts, à Venise, se trouve un tableau de Paolo Veronese. On voit pas très bien. En fait, c'est l'histoire de la scène. On voit Jésus qui mange avec ses disciples. Et dans cette scène, on voit des soldats romains qui jouent dans un coin, une autre personne qui a le nez en sang qui est là, et puis il y a des chiens errants vers le milieu, il y a des esclaves qui jouent avec des nains. Et ce tableau lui a causé pas mal d'ennuis avec l'Inquisition. Ils lui ont demandé de mettre en conformité ce tableau avec ce que le tribunal pensait être la bienséance religieuse. Et pour l'anecdote, il refusa en disant qu'à la lumière des évangiles, c'était exactement ce genre de personne que Jésus fréquentait. Et il renomma son œuvre ensuite, le repas chez Lévi. Mais ces inquisiteurs reproduisaient exactement la même attitude des pharisiens de l'époque de Jésus, qui grinçaient des dents quand Jésus partageait des paraboles sur la grâce à ces personnes de mauvaise vie. Parce que c'est justement ces gens-là que Dieu aime. Quand on vit avec un conjoint qui critique sans cesse chacun de nos actes, on n'a qu'une envie, c'est de relever ses propres défauts. Le problème, quand on est marié avec la loi, c'est que la loi n'a aucun défaut. Psaume 19, verset 7, nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite. » Mais même si elle est parfaite, elle n'a aucune compassion. Elle va nous dire tout ce qu'il faut faire, mais ne bougera pas d'un pouce pour nous aider. Elle va relever nos moindres échecs. Notre mariage avec elle, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et le problème avec la loi, c'est qu'elle ne mourra jamais. Et pour nous soustraire à notre mariage avec la loi, Dieu a imaginé et mis à exécution une mort. Pas la mort de la loi, notre mort à nous. Dieu nous a placés en Jésus-Christ sur la croix, et c'est là qu'est mort celui qui était marié à la loi. Nous sommes donc nés de nouveau, mariés aujourd'hui avec Madame la Grâce, Jésus. Et notre vieil homme, qui était marié à la loi, est mort, et nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et on a beau être une nouvelle créature, on a toujours ce même cerveau et les mêmes façons de penser qui font qu'on oublie qu'on n'a plus aucune relation avec la loi. Et on cherche à avoir la même relation avec la grâce que celle qu'on avait avec la loi. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Ma volonté, que tu reçoives mon amour et que tu y prennes plaisir. Ok, mais que veux-tu que je fasse ? Je souhaite que tu reçoives mon amour et que tu te réjouisses. Très bien, mais comment est-ce que je peux faire ? Tant qu'on n'a pas pris conscience qu'on est mort à la loi et qu'on n'arrivera pas à entrer en relation avec Jésus à travers le régime de la loi, ça ne fonctionnera jamais. Ce qui intéresse le plus Dieu, ce n'est pas ce qu'on fait, mais c'est qui nous sommes. La grâce met l'accent sur l'être et la loi sur le faire. Là, je m'adresse à tous ceux qui sont parents depuis quelques années et qui ont eu le temps d'éduquer un petit peu leurs enfants. Vous savez sûrement qu'il existe un certain nombre de lois, de textes sur les responsabilités parentales qui font partie du code pénal et qui permettent de garantir à ce que les enfants reçoivent de bons soins et qu'ils ne soient pas maltraités. Et toute personne qui enfreint cette loi peut se voir retirer la garde des enfants ou être passible de prison. Et ces lois sont accessibles à tout le monde. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et est-ce que vous êtes déjà allé voir ces textes pour savoir ce que vous avez le droit de faire ou non ? Est-ce que vous avez eu peur qu'on vous retire la garde de vos enfants ? Et je suis sûr que vous êtes allé bien au-delà de ce que disent les textes. Pourquoi ? parce que vous avez eu avec vos enfants des relations d'amour. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Notre vie est placée sous le régime de la grâce et nos actes sont motivés par l'amour qu'on a pour Jésus. Notre moteur n'est plus le devoir, mais le désir. C'est plus qu'on néglige les lois, mais on n'a plus rien à voir avec elles. Alors on a vu que la grâce est quelque chose qu'on ne mérite pas, que nos attitudes peuvent qu'elle nous demande de ne pas compter, que nos aptitudes peuvent devenir un handicap quand on place notre confiance en elle au lieu de la placer en Dieu, et qu'on est mort à la loi. Mais alors comment nous saisir de la grâce de Dieu ? Je ne suis pas en train de vous encourager à vivre dans la passivité ou dans la paresse, en attendant que la grâce nous transcende ou que quelque chose se passe. Je suis en train de vous dire que notre pensée ne doit pas être dirigée sur ce qu'il faut qu'on fasse pour plaire à Dieu, mais sur le simple fait d'apprendre à aimer Dieu de plus en plus. Et de là, par amour, découleront toutes sortes d'actions qui se feront d'elles-mêmes. Si vous aimez Dieu, vous garderez mes commandements, nous dit Jésus. La grâce doit ouvrir nos yeux sur notre union avec lui. Quand on voit tout ce que Jésus accomplit pendant ses 3 années de ministère, ou même Paul, est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient dans la passivité ou dans la paresse ? Les yeux de Paul se sont ouverts sur cette grâce qu'il a reçue, il en était plein à bord. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé, nous dit Paul. Si demain vous recevez le don musical de Mozart, est-ce que vous ne toucherez plus jamais un piano ? Au contraire, vous serez tellement heureux d'avoir ce don que vous chercheriez à l'exercer le plus souvent. Et lorsque cette grâce nous ouvre les yeux sur l'identité de Christ, on fait toujours les mêmes choses. On continue toujours de prier, de lire la Bible, d'aller à l'église et tout un tas d'autres activités. Mais la chose qui a changé, c'est la source de notre énergie. Nous n'agissons plus par nos efforts de légaliste, mais par sa puissance. Prenons plaisir à faire ces mêmes choses qu'on faisait déjà par devoir, comme une manifestation éclatante de la vie de Jésus-Christ en nous. Titre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude du légalisme, par exemple. Ne vivons plus sous la culpabilité de ne pas faire telle ou telle chose ou de mal faire celle-ci ou celle-là. La crainte de ne pas être à la hauteur. Tout ça n'a plus d'importance puisque Christ vit en nous. Goûtons à sa joie et à son repos. Marchons dans la vie chrétienne de la même manière qu'on y est entré, par la foi. Colossiens 2, 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez en lui. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu t'es fait grâce. Merci parce que tu es venu nous chercher. Merci parce que tu nous aimes. On ne méritait rien, mais tu nous as fait bénéficier de cette fête avec toi. Et Seigneur, on veut vraiment réaliser combien tu nous aimes et on veut t'aimer en retour, Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux. Qu'on puisse comprendre, Seigneur, la dimension de cette grâce que tu as pour nous. Amen.
Merci beaucoup à Mathieu pour ces rappels qui sont extrêmement importants sur comment Dieu voit les choses et surtout comment il renverse notre façon souvent de penser et de vivre. Mais s'il le fait, ce n'est pas tellement pour nous coincer, c'est vraiment pour nous provoquer à nous projeter dans ses bras d'amour et à découvrir qu'il y avait une seule raison pour laquelle il a fait tout ça, c'est parce qu'il nous aimait. Et tout à l'heure, on a chanté ce verset que nous connaissons très bien, ou plutôt que Anne nous a lu, qui était de Jean 3,16, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde ». Et si ce matin vous avez été bousculé un petit peu par ce que Matthieu nous a rappelé, et c'est vrai que ça bouscule, parce qu'il y a un moment ou un autre, à quoi est-ce qu'on s'accroche ? On ne peut plus s'accrocher à notre propre mérite, à notre propre beauté, à notre propre dignité. Mais Dieu le fait non pas pour nous mettre le nez dans la boue et tout ça, mais il le fait pour dire, tourne-toi vers moi parce que le fond de la chose, c'est que je t'aime. Et j'aimerais ce matin que nous puissions prendre tout ce que Matthieu nous a dit ce matin, non pas comme quelque chose qui tout simplement nous trouble, mais comme quelque chose qui nous pousse tout simplement dans les bras de notre Seigneur, parce que tout ce qu'il a fait pour nous trouve son origine dans l'amour qu'il avait pour nous. Et j'aimerais lire un texte ce matin en introduction à notre Sainte Cène, qui est un texte que vous connaissez, qui est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 22. Et il est dit « Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les 12 apôtres et il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Il y a beaucoup de choses dans ce verset. Quand l'heure fut venue, la notion de l'heure dans les évangiles est très importante. Jésus est venu pour une certaine heure, c'est-à-dire pour le moment où il allait accomplir cette œuvre en notre faveur. Et là, il est dit, quand cette heure fut venue, enfin, ce pourquoi il avait préparé tellement de choses depuis tellement longtemps, cette heure est arrivée. Et il dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. Et dans ce vivement désiré, j'aimerais que nous entendions et que nous lisions l'amour que le Seigneur a d'être avec nous, d'être proche, de nous faire comprendre à quel point il nous a aimés et qu'il est venu pour nous sauver. Et j'aimerais que nous croyions tous ce matin, lorsque nous prendrons le pain et le vin, que le Seigneur désire vivement que nous prenions ce pain et ce vin. Parce que c'est le geste qu'il nous a laissé pour nous remémorer cet amour qu'il avait ou qu'il a envers nous et qu'il l'a poussé à mourir pour nous et à ressusciter. Chers amis, ce matin, le Seigneur désire vivement que nous prenions cette scène. Et que comme Matthieu nous l'a rappelé, nous laissions de côté simplement l'idée que peut-être nous sommes dignes ou pas dignes de la prendre. Mais le Seigneur souhaite que vous saisissiez son amour, le Seigneur souhaite que vous saisissiez son pardon, le Seigneur souhaite que nous saisissions la nouvelle vie qu'il nous donne ce matin. Et comme ce pain et ce vin nourrissent notre corps, sa présence dans notre vie nourrit notre esprit, nourrit notre être, nourrit tout ce que nous sommes. Alors je vous invite à prendre quelques instants pour prier le Seigneur dans votre cœur et ouvrir votre cœur à son amour et à le recevoir. Que vous laissiez de côté votre propre dignité, mais que vous receviez son amour et son pardon et sa grâce. Ensuite, j'aimerais inviter Matthieu et peut-être Nelly, si elle voudrait bien s'avancer, prier en notre nom pour remercier le Seigneur et ensuite distribuer le pain. Mais je vous invite à prendre quelques instants dans le silence. C'est le Seigneur qui est notre justice, c'est le Seigneur qui est notre force. Allez avec cette justice, allez avec cette force.
Si tu lèves vers Jésus. Voilà, je partage avec vous les annonces. Je vous laisse voir le programme de la semaine sur l'écran. Juste concernant samedi prochain, conférence pour femmes à Avuzy. Donc il y a encore des prospectus sur le, au-dessous du tableau d'affichage au fond de la salle. Pour celles qui désirent y participer, n'oubliez pas de vous inscrire. C'est sur inscription. Donc dans 2 semaines, on aura un culte de baptême. Donc on a déjà dit ce sera à 10h, pas à 10h30. N'oubliez pas aussi, si vous ne voulez pas rater le début, on se réjouit vraiment. On a 7 jeunes qui veulent se faire baptiser. Donc il s'agit de Théo, Valentine, Paola, Marc aussi, Ruben et Maxime, ainsi que Florian, donc le fils de Raymond et Pascal. C'est important aussi de prier pour eux, pour leur protection, pour cette journée importante, la préparation du témoignage aussi, et puis aussi pour ce que cela représente vis-à-vis des personnes qui les voient vivre, le témoignage que cela représente. Donc le culte sera suivi d'un apéritif dînatoire. Donc on vous invite à participer, tous ceux qui veulent participer le peuvent, c'est quand même important. Il y aura donc du salé, du sucré. Il y a sur le tableau d'affichage une liste pour s'inscrire de façon à ce qu'on puisse se répartir la préparation. Alors c'est important qu'un grand nombre de personnes puissent participer. C'est aussi plus facile. On a parlé aussi que différentes personnes ont des soucis de santé. C'est important de penser les uns aux autres, de nous soutenir aussi dans la prière. Donc Élodie a eu un ulcère à un œil. Donc elle est partie en urgence à l'hôpital du Châle, vers Bonneville. Et puis ils lui ont donné des traitements. Elle est rentrée et puis ça n'allait pas mieux, elle souffrait beaucoup. Son œil était toujours aussi enflé. Sandy s'est démenée un petit peu pour trouver où aller, pour trouver les soins appropriés. Finalement, ils ont été dans un hôpital spécialisé à Lyon. Et puis là, il est apparu que son œil avait en plus une infection. Donc, elle reçoit les soins dont elle a besoin. Elle est en tout cas pour 1 semaine dans cet hôpital. Donc voilà, c'est important de prier pour elle. Notre Dieu est puissant, il a tout accompli, il peut toutes choses. Et remettons vraiment Élodie, Sandy aussi, afin qu'il soit gardé et puis qu'Élodie soit aussi gardée dans son corps. On va partager aussi par rapport à Didier et Loredane. Alors c'est vrai que ça fait 2-3 semaines qu'on ne les voit plus. Didier a eu une infection pulmonaire. Et puis c'est souvent long à se remettre. Ça se remet, mais c'est long. Voilà. Donc prions pour Didier. Prions aussi pour Loredane, qui a dû aller aux urgences pour des symptômes inquiétants de demi-paralysie faciale. Et finalement, ça s'est avéré que c'était d'origine infectieuse. Donc elle est soignée, elle est traitée. Ça va mieux, c'est pas encore tout à fait ça. Donc pensons bien à Loredane ainsi qu'à Didier. Pensons aussi bien à Zoé qui est rentrée lundi passé suite à son opération du ménisque, mais c'est pas facile parce que ça va durer en tout cas 3 mois et donc elle est peu mobile. Vous imaginez bien qu'avec trois enfants jeunes, c'est pas forcément simple. Donc si quelqu'un connaissait une personne qui pourrait les aider, par exemple une jeune fille au père, faites leur signe. Vous pouvez contacter aussi Lydie ou bien directement Zoé et Paul, mais c'est vrai qu'ils auraient besoin de quelqu'un qui soit là tout le temps pour toutes les petites choses de la vie, pour éviter que Zoé ne soit trop sollicitée. Je vois que Fernande est parmi nous. On se réjouit de te revoir, Fernande. Que Dieu aussi continue à te bénir. Alors je vous invite à prier pour ces différentes personnes qui souffrent dans leur corps et pour les remettre à notre Dieu. Oui Seigneur, nous voulons t'apporter Élodie tout en particulier. Nous te la remettons afin que tu poses ta bonne main sur son œil, que tu lui donnes aussi ta paix, que tu donnes aussi la sagesse au médecin. Vraiment que tu t'occupes d'elle, que tu la gardes et que tu la bénisses. Nous te remettons aussi Sandy, que tu le renouvelles, que tu sois avec lui aussi à chaque instant. Nous te remettons aussi Didier Loredan, que tu les bénisses, que tu les fortifies, que tu donnes les forces à Didier aussi suite à cette infection pulmonaire, que tu permettes aussi que Loredan se rétablisse. Bénis-les richement. Nous te remettons aussi Zoé, que tu l'accompagnes jour après jour, que tu poses tes bonnes mains sur son genou. Nous voulons encore te remettre Fernande, que tu la gardes dans sa santé. Nous te remettons aussi Annelise, Rachel, que tu les bénisses et les fortifies. Au nom du Seigneur Jésus, amen. Voilà, cette semaine, comme chaque semaine, nous vous invitons à prier pour les chrétiens d'Ouzbékistan. Voilà, un pays qui est situé, c'est le numéro 15 là-haut. Un pays dans lequel il n'est pas simple d'être chrétien. Voilà, pensons à nos frères et sœurs dans ce pays. Sinon, je vous invite à vous lever. Oui, ah ben oui. On va encore vous stimuler.
Oui, parce que, allez, on a eu un message qui nous encourage à bénéficier de cette grâce. Et je crois qu'on peut profiter et aller dans ce courant que la grâce, elle coule. Cette grâce gratuite, on est là pour même en abuser, je dirais. Hein, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et on voit que dans notre Église, beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup sont dans la difficulté, beaucoup sont malades. Et cette grâce est là. Et on a cette responsabilité les uns envers les autres, de veiller les uns envers les autres, de prier les uns pour les autres. Il y en a peut-être un qui s'acharne contre nous, qui ne veut pas qu'on ait cette grâce, qu'on bénéficie pleinement de cette grâce. Eh bien, on a cette capacité, ce pouvoir de dire non à cela. Et moi, je vous encourage vraiment, mardi, il y a la réunion de prière, et on veut passer un moment particulièrement dans la prière pour ces gens qui souffrent et qui sont malades, pour abuser de cette grâce. Matthieu nous a dit, cette grâce, source de salut pour tous les hommes, et qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. Moi, je préfère dire qu'au lieu de renoncer à l'impiété, elle nous encourage à la piété. Cette grâce nous encourage à la piété. La piété, c'est, oui, c'est se mettre à genoux, c'est avoir cette relation, cette proximité avec Dieu. Je ne vais pas faire un deuxième message, mais vraiment, on a cette occasion encore mardi de mettre ça pratiquement à l'œuvre. Voilà.
Voilà. Donc, retrouvons-nous nombreux mardi soir. N'hésitez pas, il y aura de la place pour chacun. Voilà, je vous invite à vous lever. Je vous partage encore deux versets dans 2 Thessaloniciens 2. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Amen. Bon dimanche, bonne semaine et à mardi.